France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est la suite aujourd'hui d'une petite série que nous avons initiée il y a maintenant 3 ans et qui s'appelle « Le journal d'un nouveau-né ». Ça a débuté comme ça.
Le début de cette histoire, cette future histoire à trois, elle a commencé le 24 juillet 2011, quand j'ai croisé le regard de Jérôme un soir au Bataclan à Paris. J'ai vu un jeune homme, barbu, et tout de suite, je me suis dit « Ouah, je veux rencontrer cet homme. » On était à quelques mètres l'un de l'autre, et son regard n'a pas décroché du mien non plus.
De cette rencontre, en 2019, est né Marius. Une petite équipe s'est formée, qu'on peut appeler une famille, et avec elle, toutes les premières fois. Le premier regard, le premier bain, la première séparation. Marius dans un couffin, sur une belle peau d'agneau, Marius dans tous ses états. Et ses deux parents, Laure et Jérôme, figurez-vous, en sont très heureux.
Il est en train de sourire. Jérôme, regarde.
Coucou Marius.
Coucou.
Coucou.
Alors, t'as bien dormi ?
Oh ! Il est trop mignon.
Oui, mon loulou.
Même quand il pleure, il est trop mignon.
Ensuite, il y a eu les premiers pas, les premiers mots, tellement d'événements à la fois insignifiants et de la plus haute importance, l'infra-minuscule, le merveilleux quotidien, si difficile à partager et si beau à vivre. Nous voici à présent 3 ans plus tard, Marius a donc 3 ans, et il n'y a qu'Élise Andrieux pour réussir à raconter cette histoire banale, universelle et tellement unique. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, le journal d'un nouveau-né, épisode 3.
On se retrouve après 3 ans, à peu près. Et surtout, oui, demain Marius va avoir 3 ans et 4 mois. Ce qui s'est passé donc en 3 ans et 4 mois, c'est déjà la construction d'une famille à trois, un nouvel équilibre à trouver. C'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend, et puis accompagner en fait un enfant sur ses 3 premières années de vie, c'est un chamboulement énorme. Et Marius, depuis sa naissance, on l'avait vu quand même assez vif, tonique, très solaire, plutôt doux. C'est un enfant qui est toujours enthousiaste pour faire tout ce qu'on lui propose, donc ça c'est vraiment génial. Par contre, il a une énergie débordante, comme beaucoup d'enfants, mais donc il n'est pas très facile à suivre non plus. Il dit toujours qu'on est très beau. Il me regarde, il me dit « Maman, t'es très belle. Papa aussi, t'es beau. Marius aussi, il est beau. Mustapha aussi, il est beau. » Donc ça, c'est son doudou. Mais il nous dit très régulièrement qu'on est tous très beaux. Et il adore faire ce qu'on appelle des câlins sandwich, tous les trois. Et c'est vrai que voir la vie par les yeux d'un enfant, c'est une expérience extraordinaire. Coucou, ça va? Encore?
Oui.
Il s'est réouvert au même endroit qu'il y a 6 mois?
C'est ça.
Oh non, non, non.
Là, au menton.
Oh. T'as pleuré, mon chat?
Non. Va se laver les mains, Marius. Marius.
En ce moment, tous les soirs, il regarde les footballeurs sur le terrain. Et on n'arrive pas à le décrocher de la banquette.
Lui, il est bizarre. Pétard. Bon. Pétard.
Ouais, tu viens pas les mains, s'il te plaît.
Hop là. Faudra la
Alors nous deux, en tant que couple avec Jérôme, évidemment ça change. Je pense que c'est ce qui... C'est ce qui finalement change le plus, puisque... Enfin,
non.
Le côté couple passe en dernier sur une vie de famille. Et tout l'amour qu'on peut se porter, on le porte quand même beaucoup à l'enfant ou à travers l'enfant. J'avais déjà peur de perdre cet aspect tactile, aimant. Et on l'a quand même un petit peu perdu. Même si on tient toujours à ces petites choses. Voilà. Quand tu m'as dit qu'il avait le pantalon à l'envers, je pensais qu'il avait juste le pantalon.
Non, il a le pantalon retourné. Regarde. C'est toi qui l'as mis, ton pantalon à l'envers ?
Non.
Tu t'en es pas rendu compte ?
Non, c'est pas moi.
C'est qui ?
C'est les autres.
C'est les autres qui t'habillent ?
Oui. Sautez.
Doucement, doucement, Marius.
Marius a grandi, et puis un jour, on a reparlé d'un deuxième enfant, d'une possible petite sœur ou petit frère pour Marius. C'était il y a 2 ans. Au début, on a commencé en fin de printemps, hyper joyeux. On s'est dit, ça prendra le temps que ça prendra. Et disons que les 6 premiers mois, les 8 premiers mois passent. Et ça commence à être long. Je me demande si ça va fonctionner, s'il n'existe pas une infertilité inexpliquée. Et puis, l'attente suit son cours. C'est des périodes vraiment pas faciles pour moi. Je suis pas très heureuse et je me réfugie à fond dans le travail. C'est un moment vraiment pas facile dans la vie d'un couple parce que on est très très en attente. Plus ça prend du temps, plus on est focalisé, rivé sur ça. Donc ça prend quand même beaucoup de place dans nos vies. Je commence à démarcher des praticiens, des énergéticiens. Et après ça, il y a à peu près 1 an, au mois d'avril, au printemps dernier, Jérôme me dit que ça serait peut-être bien qu'on fasse un bilan de fertilité.
Je savais que Laure, de toute manière, elle ne voudrait pas qu'un seul enfant. Moi, j'aurais pu m'arrêter à un enfant. Après, je connaissais le contrat en m'engageant avec Laure. Donc cette question-là, oui, elle s'est posée au bout d'un an et demi, 2 ans, et ça marchait toujours pas de toute manière de façon naturelle. Et plus l'attente est longue, plus ça pèse forcément, plus ça pèse sur l'or. Il y a des moments un peu où ça craque, il y a des moments où on n'a pas pensé à abandonner, mais mais c'est des épreuves qu'il faut passer. Forcément, c'est pas toujours simple.
Et on se lance dans une batterie d'examens qui ne sont vraiment pas faciles à vivre, et surtout pour le corps féminin, hein, clairement. On découvre au fur et à mesure du bilan que tout va bien. Et puis, ma gynécologue me dit que ça serait quand même bien qu'on vérifie s'il n'y a pas d'endométriose. Et finalement, il s'avère qu'à la sortie de cette IRM, on me découvre un peu d'endométriose sur les ovaires. Je me dis, c'est peut-être juste à cause de ça. Et donc, il y a une explication. On a une praticienne qui nous dit qu'elle est persuadée que c'est ça. Et donc, elle veut absolument qu'on parte en FIV, donc en fécondation in vitro. Très vite. C'est assez brutal, donc baisse d'estime de soi, il faut digérer la nouvelle. Donc en gros, l'idée, c'est de nous laisser de toute façon l'été pour appréhender la nouvelle, se conditionner, tout en engageant déjà parcours PMA. Bon. Et on a déjà carrément prévu les rendez-vous à la rentrée. Donc on a une deadline.
On enclenche cherche tous les examens, tout ça. On prend des rendez-vous pour que y ait une FIV à la rentrée de septembre. On gère tout ça avant de partir en vacances l'été. Des vacances qui avaient été aussi calées parce que justement on en avait un peu marre d'attendre que ça prenne du temps et presque un petit coup de folie. On se dit bah on va faire les États-Unis, on va louer un van et on va partir à Troyes avec Marius, aller se faire les grands parcs nationaux de l'Ouest américain. Le fait est que quand on part, elle est toujours pas enceinte.
Donc nous voilà partis fin juillet sur les routes face à des paysages merveilleux de terre très rouge, très ocre, très aride. Et puis on va quitter en fait cet espace-là pour arriver dans un espace vert qu'on appelle Yosemite Park, qu'on surnomme aussi la vallée fertile. Et je trouve ça rigolo. Et je repars dans ce truc-là de « Ah, et si jamais on avait encore une chance naturelle ?» En tout cas, ça m'y fait penser à ce moment-là. Ce soir-là, je sais que c'est une période propice, en tout cas, à ça. Et bon, on a un peu peur des ours dans cette vallée, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'ours et qui se sont en plus reproduits en masse depuis le confinement. Donc c'est un soir où moi je vais quasiment pas sortir du van. Je prends quand même un petit peu de temps pour regarder le ciel qui est au-dessus de moi, qui est incroyable. On est le 5 août, donc c'est la semaine à peu près des étoiles filantes. Et ce soir-là, je vois beaucoup d'étoiles filantes. Et je fais le même vœu. Je pense que je fais 5 fois le même vœu.
Et on rentre des États-Unis début août. Et on a encore quelques jours qu'on a prévus juste tous les deux. Et là, c'est le moment où normalement l'or doit avoir ses règles. Et finalement, elle les a pas.
Et puis au bout de 2 jours, je lui dis, écoute, on est samedi, demain c'est dimanche, tout va être fermé. Donc ça serait bien qu'on aille à la pharmacie acheter un test de grossesse. Et il me dit, mais on est obligé d'attendre demain matin. Moi je suis hyper scolaire, je sais que les tests urinaires c'est mieux le matin, ça marche mieux. Donc je lui dis, oui, on attend demain matin. Donc le lendemain matin arrive, Jérôme me dit, les tests de grossesse c'est comme les tests du Covid, si c'est positif c'est rouge tout de suite. Il me dit ça, donc on rigole et je lui dis, ah non mais normalement il y a 5 minutes. Et au bout d'une minute il me dit, franchement ça fait une minute, on regarde. Et on regarde et c'était rouge rose fuchsia quoi. Et on était... On était comme des dingues, on a sauté, on a crié, et moi j'avais une respiration haletante, comme si j'allais faire une crise d'angoisse, je sais pas dans un état second, mais après 16 mois d'attente, c'est incroyable. Et puis aux portes de la FIV, parce que ce jour-là on est le 22 août, et le 29 août démarre notre protocole de FIV. Moi, j'ai du mal à y croire.
Mais pas à plus les footballeurs.
Mais comme il a plu, ils ont dû partir.
Ils sont rentrés manger chez eux.
Attends, j'allais le voir de l'autre côté.
Moi, je crois qu'ils sont plus là parce qu'il y a eu un gros déluge. Tu te rappelles qu'on regardait l'hiver, on regarde toutes les cheminées qui fument ?
Où ?
Quand on regarde à travers la fenêtre, on arrive à voir plein d'immeubles.
Il fait beau.
Est-ce que tu veux qu'on lise une histoire ?
Oui.
On s'installe sur le canapé ?
Mais non, ensemble !
Tu veux celui-là?
Ah non, le rose est tombé du ciel.
Ah oui.
C'est tombé du ciel. Là, c'est pour faire des bonbons.
Et puis, on l'a annoncé quelques jours après à Marius, qui avait l'air très, très heureux. Il nous a dit qu'il voulait une petite sœur. Et il nous a dit, mais le bébé, il sort par où? Et où est-ce qu'il va dormir?
Tout de suite, ça a été les deux premières questions qu'il a posées quand on lui a dit que maman avait un enfant dans le ventre.
Donc c'est le rocher tombé du ciel.
Là.
J'aime bien rester à cet endroit. C'est mon endroit préféré. D'ailleurs, je n'irai jamais nulle part ailleurs. Et on rentre un peu plus serein dans l'année 2023. Et on apprendra 3 jours après la surprise. C'est une petite fille. Et franchement, je suis... Parce qu'en fait, je pense que ça doit faire 15 ou 20 années que j'attends précieusement de mettre au monde une fille. Pour refaire le monde, pour avoir une relation mère-fille que moi, j'ai pas pu créer avec ma maman. J'avais même dit à Jérôme, bien avant d'avoir Marius, que si j'avais pas de fille, naturellement avec lui, j'irais la chercher au bout du monde s'il fallait. Donc moi, j'ai un certain manque fusionnel, de lien affectif, maternel en tout cas. Ce que j'ai pas reçu dans le lien mère-fille, c'est presque... Tout ce que je vois, en tout cas, à travers les autres relations de mon entourage, moi, je ne l'ai pas vécu et je le vivrai certainement jamais. Il y a plein de gens, en tout cas, qui vivent ça et qui se disent, moi, je veux vraiment pas de fille parce qu'ils ont peur de reproduire aussi ce schéma-là ou que ce soit difficile. Et moi, au contraire, c'est l'inverse. Pour justement pouvoir, en tout cas, ouvrir cette porte... et j'ai envie, moi, de pouvoir transmettre des choses à ma fille, voilà. Et de mon côté, j'ai appris une histoire familiale, en tout cas un drame qui est arrivé à mes parents, qui ont vécu en fait l'arrivée d'un bébé très lourdement handicapé avant moi, qui n'a pas survécu, ou en tout cas que quelques jours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à 35 ans, donc il y a un an, par quelqu'un d'autre de ma famille. La personne qui m'en a parlé était persuadée qu'on savait. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que je comprends la carapace qui a pu être en tout cas mise sur mes parents, mais qui est très très dommageable puisque c'est un drame qui n'est pas c'est une tragédie qu'on n'a pas voulu ressoulever en fait. Donc j'ai pas eu cette conversation avec mes parents, pas pour le moment, et je me vois pas encore réouvrir cette brèche. En tout cas, c'est malheureux dans un sens parce que j'ai mis des années, moi, à comprendre comment je fonctionnais et quelle était ma place. Ça peut expliquer la manière dont j'étais enfant, très introvertie, la manière dont je ne prenais pas du tout place au sein du monde ou de la famille. J'étais quelqu'un qui n'osait pas du tout parler. C'est un peu comme une clé que j'aurais trouvée. Et... maintenant, je sais que j'ai eu une grande sœur et ça me fait du bien de savoir, en tout cas, là, les choses telles quelles. J'y pense de temps en temps.
Non, on va pas mettre comme ça.
C'est pas comme ça.
veux pas que tu fasses de la balle aussi fort dans la maison. Marius, viens te poser, s'il te plaît. Marius, calme-toi.
Dimanche, papa il va t'emmener manger, on va manger chez les copains.
Mais donc pas de fourchette.
Comment on demande?
Maintenant, c'est maman qui
demande. Oui, mais comment tu demandes?
Maman.
Comment tu lui demandes à maman?
Maman, j'ai une fourchette, s'il te plaît.
Donc la naissance est prévue pour le 5 mai. J'essaie de pas trop penser au moment où je vais avoir voilà ma fille posée contre moi, mais c'est sûr que ça va être ça va être un moment intense. À cette semaine-là, elle doit faire à peu près 43-44 cm déjà. Je suis en train de toucher mon ventre, de le caresser. Elle bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tel point que là, actuellement, pour moi, elle bouge trop. Depuis 15 jours, là, c'est difficile. Il y a des moments où je me dis, elle ne se repose jamais. Moi, là, disons que je suis impatiente de reprendre possession un peu de mon corps. Parce que les fins de journée arrivant... les nuits sont toujours un peu plus compliquées et en même temps là je suis à un stade où je me dis non, c'est passé trop vite, j'ai pas assez profité, et en même temps j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de la rencontre, peur de l'inconnu. Même si on a déjà eu un premier bébé, pour moi c'est comme si on n'en avait pas eu avant elle. Pour moi c'est à nouveau l'inconnu total, donc forcément ça fait un petit peu peur.
C'était le journal d'un nouveau-né, troisième épisode, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Ludovic Auger. Merci bien sûr à Laure, à Jérôme et à Marius, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris, et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. Nights and one night cheap hotels. Oh, my only.
Lost in the garden.